du coq à l'âne.
Ok, 3, 2, 1, let's jam.
Nous avons un retour autour de la table avec Jean-Claude Hérault, Jean Cointe, Pierre Lurigny et Louis Albran et notre invité qui est au bout du fil avec nous. Vous allez essayer de deviner qui est avec nous au bout du fil dans un instant. On va parler avec lui d'un sujet qu'il maîtrise bien, le niveau de l'école française. Dans la nouvelle étude internationale PISA sur les acquis des élèves tombée mardi dernier, les jeunes français se classent, bon, comme d'habitude, dans le milieu du tableau. Leurs résultats ne baissent pas, mais ça stagne. Et puis bon, on est juste un petit peu au-dessus de la moyenne. Hein, on est 23e, juste derrière, alors juste devant ceux qui sont vraiment juste dans la moyenne de l'OCDE, c'est-à-dire le Portugal, le Pays-Bas. Et donc 23e la France, derrière la Belgique, l'Allemagne, le Japon, le Royaume-Uni, États-Unis, Irlande, Finlande, Canada, Estonie, Hong Kong, Macao, Singapour. Enfin bon, il y a quand même du monde devant. Donc on est un peu des blaireaux hein, dans l'histoire. Alors il y a une fracture qui ressort de tout ça, une fracture entre les élèves issus d'un milieu favorisé et celui-ci des classes sociales défavorisées. Et puis il y a aussi un autre conseil, il y a trop de bruit dans les salles de classe. Alors est-ce que dans ta salle de classe, toi qui es avec nous, est-ce qu'il y a du bruit dans ta classe?
Oh ben, certainement pas. S'il y avait du bruit, je n'entendrais pas une mouche voler et j'entendrais mes collègues dans les classes avoisinantes. Donc je ne veux pas de bruit dans ma classe. On travaille sereinement et avec grande bienveillance.
Alors, toi, tu étais ici il y a quelques mois encore, on va dire, ou années?
Tout à fait. Non, un an et demi.
Un an et demi?
Tu étais an et demi dans un petit village.
Un petit village. Et là, tu es parti du côté de...
Oui, je suis... parti de Nice et depuis ma salle de classe, je vois la mer à longueur de journée.
Ah oui,
et depuis mon bureau, je vois la mer à longueur de journée.
Je suis ami avec toi sur Facebook.
Oui.
C'est qui
ensemble sur Facebook. Je dis pas.
Mais si.
Je laisse voir les autres.
Non, mais les autres, ils vont pas trouver parce que les autres, ils sont mauvais.
C'est un militant la République en marche.
Oui, mais au départ, il était un peu modem aussi, il me semble.
Ouais, modem. Et après, il est devenu LREM.
Ouais.
Mais à un moment, c'était un peu la même chose. Oui, je vais bien, c'est vrai. Ah. C'est
donc,
vrai que
on présente,
le sujet de PISA.
On présente Thierry Pajot qui est avec nous, bien sûr. Tu étais directeur d'une école, c'était où déjà, rappelle-moi?
Dans une campagne.
À la Fourie. Voilà, absolument.
Je leur fais un petit coucou ce soir à mes Fourillons préférés.
Bon, Thierry, qu'est-ce qui se passe au niveau des élèves là? C'est pas possible, quoi. On est en train de régresser parce que là, même si on nous dit qu'on stagne, on a vraiment le sentiment que ça va de mal en pis, non?
Oui, alors c'est vrai que. En fait, les élèves qui ont passé PISA, c'était l'année dernière, hein. Les élèves ont été évalués en 2018, on a les statistiques qui sortent, parce que c'est en fait PISA, d'abord les enfants, les élèves de 3e et de 2e en France qui font PISA, ont déjà un questionnaire de 20 pages à répondre pour savoir quelle est leur catégorie sociale par rapport à tout, donc c'est très compliqué.
Ouais.
Et ensuite, ils ont des exercices hyper compliqués. Hein. Nous, on a eu droit à des exercices libérés, c'est-à-dire qu'ils ne sont plus donnés, donc on peut les travailler avec eux sur des compréhensions. Et les élèves qui ont été évalués aujourd'hui, ce sont ceux qui étaient en CP en 2008 et qui est arrivé en 2009 à la direction générale du ministère, c'est bien sûr Monsieur Blanquer. Donc c'est un peu la génération Blanquer qui, des années après, c'est-à-dire presque 10 ans après, a été évalué. Donc c'est lui qui a mis en place tout ça. Et donc c'est sa génération, puisqu'il est resté de 2009 à 2012, qui est évalué aujourd'hui, avec un an d'écart par rapport à ça. Donc c'est non pas lui le responsable, mais il est le parrain de cette génération.
Bah quand même un petit peu.
Et c'est notre ministre.
Et c'est notre ministre aujourd'hui.
Et c'est notre ministre. Donc voilà. Donc nous ici, dans n'importe quelle école de France, on a bien sûr les résultats qui tombent. On a bien sûr des travaux dessus, des activités. Et nous, mon école était choisie volontairement d'office, désignée obligatoire comme école mathématique 2019-2022.
Mmh.
C'est-à-dire que dans mon école, pour mettre en place PISA, parce que c'est beaucoup des maths quand même, Monsieur Villani Torossian, candidat Evin, Monsieur Villani est le chercheur Torossian. On met en place des écoles pilotes, et moi, mes enseignants, donc on est 9, je leur fais un petit coucou ce soir, on a droit à 27 heures de formation en maths cette année, donc ils ont été très heureux d'apprendre que 9 mercredis matin, ils allaient faire des maths, et par exemple, mercredi matin, on a droit à un conseiller pédagogique Villani, qui venait de chez Villani, qui est venu nous parler des fractions pendant 3 heures, mais en fait, c'était génial, je vais pas dire le contraire, on revoit un petit peu nos bases, on revoit ce qu'on a fait il y a quelques années, on pose des notions,
Thierry,
et on voit des activités en classe par rapport à ça.
Parce que c'est important là ce que tu dis, parce qu'on a le sentiment que les élèves sont moins bons aujourd'hui qu'il y a 20, 30 ans ou 40 ans en arrière, mais on a le sentiment aussi que les profs sont moins bons aujourd'hui qu'il y a 20 ans, 30 ans ou 40 ans en arrière.
Alors, C'est-à-dire que moi, il y a 20 ans, 30 ans, on avait 3 ans de formation, hein, d'école normale. 84, 87, c'est mes 3 ans d'école normale. Ensuite, il y a eu plus que 2 ans, plus qu'1 an. Et on voit que maintenant, on récupère des profs de Master 2. Et parfois, je suis désolé, mais on a parfois des écrits de profs qui font des fautes d'orthographe.
Alors.
Et on a besoin, on est tuteur, hein, dans mon école. On a des stagiaires qui viennent. On les aide, on les forme, mais voilà, il manque quand même cette base de 3 ans qu'on avait à l'école normale il y a quelques années.
Et effectivement, lacune en français, lacune en orthographe, en grammaire, des lacunes que les élèves traînent maintenant, aujourd'hui, jusqu'en terminale et même plus loin, c'est quand même assez hallucinant. À quel moment a lieu cette cassure, Thierry, toi qui es dans le métier? On se doute que lorsque l'enfant arrive dans les petites classes, c'est à partir de là qu'il va faire son apprentissage. Ils arrivent tous, j'allais dire presque à même niveau, quoi. Et à quel moment il se passe quelque chose qui fait qu'ils arrivent en sixième, ils savent peut-être pas bien écrire, peut-être pas bien lire, et que ça va aller de mal en pis?
Je crois que le numérique a fait beaucoup de mal. Hein. Les tablettes, les écrans, les téléphones portables ont fait énormément de mal à se poser sur une table le soir après avoir goûté, à travailler avec la famille. Ça a fait énormément de mal il y a 20 ans quand tout est arrivé dans les maisons d'une manière assez démocratique. Et les enfants, le soir, ils pensent à leur console, ils pensent à leur tablette, ils pensent à prendre le téléphone portable des mamans parce que comme ça, les mamans sont tranquilles, les papas sont tranquilles, peuvent jouer.
Je valide.
Et se poser sur une chaise, tiens, qu'est-ce que tu as fait en classe aujourd'hui? Et qu'est-ce qu'il y a à faire comme devoir? Ça prend du temps. Donc, on pallie à ça. Hein, moi, dans mon école, on fait 1h30 supplémentaire, on fait des études surveillées qui coûtent peanuts quasiment, à l'air 35 euros par mois. Pour chaque enfant que l'on prend 1h30 supplémentaire du lundi au vendredi par rapport à ça, on fait des études surveillées, on fait les devoirs. Hein, c'est un petit peu ce qu'on appelle les devoirs faits. Donc, il y a vraiment la volonté du ministère que les gamins, quand ils partent à 6h, mais vous rendez compte que dans mon école, j'en ai qui arrivent à 7h du matin, qui repartent à 18h.
Ah oui, c'est des sacrés.
Je les vois plus que leur papa et leur maman par rapport à ça.
Thierry, il y a Pierre Lironi qui est là, il a une question à te poser. Dis bonjour déjà à Thierry.
Bonjour Thierry. Bonjour. On ne se connaît peut-être pas, mais j'écoutais avec beaucoup d'intérêt ce que tu disais. On va se tutoyer même si on ne se connaît pas ou peu. Et j'étais ravi d'entendre que tu évoquais la problématique du numérique. Il y a juste une question de date ou de période qui me gênait un petit peu parce que on pense que les choses sont lointaines, mais elles ne sont pas autant que ça. Et tu as évoqué une 20aine d'années. Moi, je crois ne pas me tromper en me disant que les gamins ont des téléphones que depuis 10aine d'années et que les smartphones, qu'ils soient tablettes ou téléphones, que depuis 5 ans. C'est vraiment un phénomène récent. Voilà. Alors, et c'est bien que tu en parles parce que dans le début de ton propos, on a l'impression, et je trouvais ça un petit peu raccourci, de considérer que c'était à cause d'un ministre, etc., que les élèves étaient peut-être un peu moins bons que nos amis belges. Ça me gênait un petit peu, d'autant que j'ai rien contre ce ministre ou pour non plus. Et le fait que tu rappelles quand même que le numérique y ait fait quelque chose, c'est pas mal. Mais reconsidérer les dates et les périodes, ça me faisait plaisir de dire, parce qu'il y a 5 ans, aucun enfant, à mon avis, n'avait de téléphone numérique. Des tablettes ou des téléphones qui permettait d'aller sur Internet. Parce qu'un téléphone, c'est une chose, on peut faire des textos. Mais le fait d'aller sur Internet, c'est encore plus ludique. Donc effectivement,
il y a 15 ans, moi j'ai un fils de 30 ans, il a eu son téléphone à 15 ans.
Mais un téléphone. Oui. Moi aussi, moi c'était pas il y a 15 ans.
C'était pour téléphoner.
Bien sûr.
C'était pour téléphoner.
Oui, oui.
Mais un téléphone et un smartphone, c'est pas pareil.
C'est plus proche.
Et oui,
c'est
mais
plus
tu vas sur Internet.
On est d'accord.
C'est pas pareil, parce qu'un téléphone, tu fais des textos, c'est une chose. Là, tu communiques bien ou mal avec des fautes d'orthographe, etc.
Bon, alors,
et on le fait tous, mais
donc, en fait, on est en train de t'expliquer, Thierry,
que 5 ans.
Je voudrais poser la question à Thierry, justement.
Vas-y.
Bonsoir Thierry, c'est Jean-Coin, on se connaît, bien.
Tout à fait, on se connaît bien.
Et j'ajoute que, moi, je pose la question suivante, est-ce que c'est pas un problème de contenu pédagogique? C'est-à-dire que, je me rappelle très bien, lorsque j'ai fait mes études primaires il y a très longtemps, on était axé sur la lecture et l'écriture.
Loulou, il peut le dire aussi, hein, il est de la même époque.
Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a l'impression, d'après les quelques devoirs que je peux regarder quelquefois, lorsque j'ai des amis qui ont des enfants dans le primaire, j'ai l'impression que ça a complètement changé, que c'est un petit peu au ras des pâquerettes. C'est-à-dire il y a ce côté d'excellence qui manque aujourd'hui, parce que nous, quand on sortait du primaire, on savait lire, on savait écrire, on avait un super niveau. Et ensuite, on embrassait la sixième avec les études classiques en latin, voire même en grec en quatrième.
Donc tout à fait. Oui, bien sûr.
Qu'est-ce que vous en pensez?
Alors, il y a vraiment. Alors, je ne cache pas que depuis quelques années, il y a vraiment un recentrage sur deux matières fondamentales que sont le français et les mathématiques. Hein. C'est vraiment. On se recentre là-dessus, on élimine un petit peu, on donne un horaire de quasiment 12 heures sur les 24 heures de la semaine pour les enfants sur le français et les maths. On se recentre vraiment sur ça. en travaillant maintenant les quatre opérations depuis le CP. Donc j'ai vraiment de concentration. Sauf qu'on n'oublie pas quand même, on m'a ajouté cette année une obligation d'avoir 20 à 30 minutes d'anglais tous les jours. C'est une obligation, j'ai obligé mes enseignants, c'est une injonction, à ce que tous les jours 20 à 30 minutes d'anglais. Avant c'était une ou deux séances par semaine, maintenant c'est tous les jours d'anglais. Donc vraiment c'est français, maths, anglais, c'est vraiment les trois piliers de notre semaine de classe. Donc on a des aides par rapport à ça. Alors, sauf que je tiens quand même à vous dire, par rapport à ces pays qui sont favorisés dans ce classement PISA, en Finlande, pour qu'un gamin aille à l'école, il faut qu'il sache le finnois.
Oui.
Moi, dans mon école, j'ai 15% des enfants qui sont russes, qui sont moldaves, qui sont ukrainiens, qui sont géorgiens. Et ils sont dans mes statistiques. Alors, comment voulez-vous, à la fin du mois, des enfants qui ne parlent pas un mot de la langue du français, ils rentrent dans ces statistiques, forcément, les statistiques de mon école vont baisser.
Eh oui.
Ce sont des enfants qui sont arrivés au 1er septembre, parce que la famille trouve que Nice est une ville merveilleuse, on peut y vivre à l'aise et tout. Ces enfants ne parlent pas un mot. Et moi, j'ai un enseignant qui est dédié à eux, qui est un enseignant UPE2A. Il y en a un enfant qui s'occupe du mésallophone. Vous vous rendez compte, j'ai 15 enfants dans mon école, j'ai presque 15, j'en ai 27 exactement, qui ne parle pas un mot de français.
Ah,
et venez, quand on fait des statistiques, évidemment que mes statistiques sont faibles.
Ah oui,
voilà. Mais je ne les sors pas, les statistiques. Ce sont des enfants. Je suis équitable. Je ne suis pas égalitaire, je suis équitable. Je les rentre dans mes statistiques pour montrer que l'ensemble de ma communauté arrive à ses résultats. Et ces enfants, ils travaillent fort.
Ouais.
On fait l'école des parents. Les parents, ils vont au collège à côté pour apprendre le français.
Ouais.
Ils sont très volontaires par rapport à ça. Mmh. Mais comment voulez-vous comparer des systèmes où 100% des enfants parlent finnois, on fait le test, et moi, j'en ai que 75% qui parlent français, on va faire le test.
Thierry, une dernière question, parce que...
Oui, je suis d'accord avec notre ami, là, pour le PISA, etc. Ce n'est pas tout. Ce qui est beaucoup plus grave en France, et je crois qu'on est le pire pays de la communauté européenne à ce sujet, c'est l'inégalité sociale devant l'accès à la connaissance. Aujourd'hui, quand moi j'étais dans l'université, il y avait plus de fils d'ouvriers, de paysans qui pouvaient prétendre à l'école normale supérieure, à Polytechnique, à une grande école, à la médecine, etc., qu'aujourd'hui.
Mmh.
Donc aujourd'hui, tout est condition socio-économique des parents.
Mmh.
Et Bourdieu l'a magnifiquement expliqué, tout ce qu'a dit Bourdieu, c'est un communiste, moi je ne suis absolument pas communiste, mais sur ce point-là, je vois qu'il avait raison. Tout ce qu'a expliqué Bourdieu est vrai. Aujourd'hui, c'est ton niveau socio-économique qui détermine la réussite scolaire et universitaire de tes enfants. Et moi, je peux en parler d'autant plus facilement. J'ai plusieurs enfants. Certains ont étudié dans les grands lycées parisiens.
Mmh.
D'autres n'ont pas eu cette chance parce que je suis venu ici à la retraite. Et j'ai vu quand même une certaine différence.
A contrario, le coût des études supérieures pour chaque étudiant est quand même relativement modéré par rapport à certains pays.
Aux États-Unis, en Angleterre, on en a parlé, effectivement, tout à fait.
Oui,
une dernière question pour Jean-Claude, et après on libère Thierry, parce qu'on a d'autres sujets à voir, les gars, c'est leur tour.
Thierry,
alors, c'est pas que c'est pas intéressant. Hein.
Thierry, c'est Jean-Claude. Bon, je suis complètement d'accord avec ce que vient de dire Loulou. Il faut prendre en compte. On devrait pas. On parle de l'éducation nationale. Moi, je pense qu'il vaudrait mieux dire l'instruction nationale, parce que l'éducation, c'est la famille qui la donne.
Tout à fait.
Parce que le problème, par exemple, moi, je sais que quand je reçois mes petits-enfants, pour éviter qu'ils soient sur les tablettes, on fait des jeux de société.
Oui.
C'est une règle que je me suis donnée. Ils vont arriver pour Noël. Pendant une semaine, ils ont droit à tous les jeux de société possibles et imaginables.
Mmh.
Parce que les jeux de société, ça leur porte beaucoup plus que de rester sur leur tablette.
Ben, c'est un jeu de société.
Voilà. Mais ça,
le
problème, c'est que combien y a-t-il de familles qui rencontrent aujourd'hui des difficultés sociales quasiment insurmontables, qui ne peuvent pas faire cette démarche et qui sont dans une situation très pénible. Et donc... Pas tout le monde, de nouveau, je mets souvent cet argument, pas tout le monde, on n'est pas tous égaux devant la situation.
On rappellera Thierry dans une autre émission pour parler de l'éducation nationale et le rapport qu'il peut y avoir aujourd'hui entre l'instruction nationale et l'éducation des parents, etc. Parce que ça, c'est encore...
Appeler ça l'instruction publique.
C'est un vaste sujet.
Exactement.
Hein,
Thierry, merci, c'était super sympa.
Eh bien, de rien.
Merci.
De rien, c'est gentil.
Allez,
coucou, les Hautes-Alpes.
Bonsoir.
Ciao.
Passe le bonjour au Niçois.
Allez,
à bientôt. Ciao, Thierry. Ciao. Voilà, Thierry Pajot, donc, qui était avec nous. Je trouvais intéressant d'avoir l'avis d'un directeur d'école. Hein.
C'est éminemment toujours, sympathique.
Toujours en plus.
C'est compétent.
On parle un petit peu de l'hôpital, Loulou.
Oui.
Alors,
mais,
c'est la souffrance aujourd'hui qui est vraiment mis en avant hein, sur l'hôpital. Et pas que les urgences. Parce que moi, ce qui m'énerve un petit peu, c'est que depuis un certain temps, on ne parle que des urgences. On dit, ah, les urgences.
Parce qu'elles sont en grève.
Mais oui, le problème, il est général.
Il y a un problème aux urgences. Parce que la réforme, soi-disant, on a fait une émission ici de Mme Buzyn qui devait tout bouleverser. Les médecins généralistes devaient avoir un assistant qui les libérerait du travail
administratif. C'était l'année dernière, ça.
Oui, on a parlé de ça ici toute une soirée. C'était du bidon, je l'ai dit. J'avais employé le mot bidon. Et aujourd'hui, ça se confirme. Il y a de moins en moins de généralistes. Aujourd'hui, ils font des vagues associations, etc. Et les gens ont un mal fou. Moi, j'étais malade cet été dans les Hautes-Alpes. Je l'ai vécu dans ma chair. Ils ont un mal fou aujourd'hui à trouver un généraliste. Et alors, tu vas où? Tu vas aux urgences. Les urgences débordées. Voilà. Mais c'est dans les Hautes-Alpes, mais c'est pire dans la Creuse, c'est pire dans la... Et là, on retrouve, parce qu'on vient de parler d'éducation, d'inégalité à cause de la carte scolaire. Si tu en as des beaux quartiers, etc., où la carte scolaire est bonne, tu as des bons lycées, et tu es sûr que tes enfants font une grande école.
J'ai une question.
Si tu es dans la France périphérique, même si l'élève est brillant, il n'a aucune chance de faire une prépa intéressante.
En toute objectivité.
Et ton professeur, là, ne le dira jamais, parce que les professeurs sont désarmés là-dedans.
En toute objectivité, est-ce que tu peux nous dire si, pour toi, les 35 heures ont désorganisé l'hôpital?
Mais ce qui a désorganisé l'hôpital... C'est l'évolution permanente depuis des années où on met de moins en moins d'argent à la santé.
Absolument. C'est les problèmes budgétaires.
Problèmes budgétaires. Pourquoi?
Je ne pense pas que ce soit un problème d'argent. Je pense que ce n'est pas un problème d'argent. C'est un problème où la population a évolué, a grossi. Et on se retrouve aujourd'hui avec les mêmes budgets ou presque.
Il faut payer des salaires. On te dit qu'en région parisienne, les infirmières, la vie est tellement dure, ils ont 2 heures de transport à faire matin et soir, ils ne trouvent même plus d'infirmières pour venir soigner.
Donc, c'est
des grands services où on manque d'infirmiers.
Le budget de l'hôpital est passé de 80 milliards à 82 milliards cette année.
Oui.
Donc, il y a quand même des sous, effectivement.
Ce qu'on appelle l'ONDAM. L'ONDAM hospitalier, il va augmenter de 2,1% l'année prochaine. Bon, ils ont obtenu un peu plus parce qu'il y a une petite rallonge. Suite à l'action du 14 novembre, ils vont avoir 2,3. Sauf que les besoins, c'est 4,3. Parce qu'on a un vieillissement de la population.
Oui,
on a toute une série d'événements qui font que les besoins sont presque le double que l'ONDAM qui va être affecté aux dépenses hospitalières. Et ça ne dure pas depuis 8 jours. Ça a existé sous Hollande, ça a existé
Je voulais
bien
simplement
avant.
Rajouter quelque chose, c'est que depuis des années, je parle sous le contrôle de notre invité, c'est-à-dire que le numerus clausus qui empêchait l'accès à la profession médicale a été, à mon avis, un mal, parce que ça ne nous a pas permis de recruter autant de médecins qu'on aurait voulu.
Pour limiter les dépenses.
Oui, bien sûr.
C'était pour ça.
Ceci étant, on n'a pas recruté tous les médecins dont on aurait eu besoin. Mais le problème, c'est que c'est un problème de répartition aussi. Parce que ça, il faut qu'on en parle.
Ça aussi.
Par exemple, il y a un grave problème de pénurie de chirurgiens dentistes dans les Hautes-Alpes. Ça, on parle des généralistes, tu en as parlé, Loulou, tu as raison.
Mais des spécialistes aussi.
Les spécialistes, les chirurgiens dentistes.
Il y a un nouveau qui est arrivé d'ophtalmo à Gap.
Oui, il y a un ophtalmo qui vient d'arriver. Mais même un ORL aussi. Mais aujourd'hui, en chirurgie dentaire, on a un vrai problème gravissime. C'est-à-dire qu'on se pose la question de fermer des centres dentaires. Moi, il y en a un Saint-Bonnet qu'on gère, on va sûrement le fermer parce qu'on ne trouve pas de chirurgien dentiste pour aller travailler à Saint-Bonnet. Alors que c'était une bonne démarche parce qu'on mettait un centre de santé dentaire dans une zone rurale. Pour moi, c'était une réussite. Eh bien, on va sûrement le fermer parce qu'on n'a pas de chirurgien dentiste.
Et le problème de ces médecins, c'est que maintenant, les jeunes générations, en particulier les dames, et c'est leur droit, limitent leurs prestations au maximum en disant « je me réserve des jours où je vais m'occuper de mes enfants ou je vais m'occuper d'autres choses ». C'est vrai que le statut du médecin qui était le médecin de famille et qui travaillait jour et nuit pour... c'est fini ça.
Ah oui, ça c'est sûr.
On
a tous connu ça.
Je l'ai dit, vous qui êtes des libéraux, bon train. Il y a du bon dans le...
Même Jean-Claude.
Il y a du bon dans le libéral. J'avais dit ici, vu l'évolution de cette médecine libérale où les gens ne se déplacent plus la nuit, ils ne sont plus là le week-end, n'assurent pas de garde, etc., ferment à 5 heures, il fallait nationaliser la médecine. Je le redis.
Ah oui, carrément.
On serait aussi bien soigné.
Parce que c'est la Sécu qui les paye.
On serait aussi bien soigné. Parce que moi, j'étais médecin salarié toute ma vie.
Ouais.
J'ai soigné avec autant de conscience. D'ailleurs, j'ai eu une réputation de bon médecin. Et que si j'avais été en cabinet. Mmh. Ah oui, on a jeté une espèce d'opprobre sur les médecins.
Toi, tu étais médecin militaire en général.
Non, j'étais médecin colonel aux Invalides parce qu'ils cherchaient un très bon neurologue, mais 5 ans à la fin de ma vie.
J'adore quand il dit 5 ans à la fin de ma vie.
Oui,
mais Loulou.
Professionnel.
Loulou, rajoute-le quand même.
Pour être parfaitement objectif, moi je tiens quand même à dire que dans ce département des Hautes-Alpes, il y a eu des efforts de fait.
Oui.
Il y a eu des maisons de santé qui sont créées. Oui. Moi, je vois par exemple Champs-sur-Bois de Godemar, on a beaucoup. Il y a des jeunes médecins généralistes qui sont venus s'installer. C'est le cas ailleurs, hein, dans le département. Il y a eu des. On a créé à Gap la maison médicale de garde, qui permet d'assurer les gardes l'après-midi, enfin le week-end, le soir jusqu'à minuit, qui évite aux gens d'aller aux urgences. Quand même, il y a eu des. Je pense qu'en matière d'organisation, on a fait le maximum. Alors, par contre, on ne peut pas inventer des professionnels de santé qui n'existent pas.
Dernière petite chose, je lisais dernièrement qu'à Paris, 900 lits d'hôpital actuellement fermés sont fermés faute de personnel soignant. Et c'est Martin Hirsch, donc directeur général de la PHP, qui pointe donc des difficultés de recrutement d'une part et de rémunération d'autre part.
C'est un problème financier.
On a les urgences de Sisteron, hein, sans aller à Paris, les urgences de Sisteron.
Tu peux parler d'Embrun aussi. Hein.
Et celles d'Embrun pour l'instant.
On sent que voilà, c'est compliqué. Quoi.
Même
c'est
chaud, Manosque, Digne, c'est difficile. C'est
chaud, j'ai une question à vous poser à tous les deux qui êtes quand même
il reste 3 minutes.
Courant.
Ça me semble
important. J'aimerais savoir où on en est de la capacité de certaines machines à faire du diagnostic médical.
Ça avance. Nous, on en parle régulièrement dans nos séminaires, nos colloques, mais ça ne remplacera pas la relation humaine. Mais ça avance. Il y a effectivement des nouvelles technologies et je pense que c'est le seul élément qui va nous permettre de passer la période extrêmement compliquée parce que le pire est devant nous. Je ne veux pas foutre la trouille aux gens, mais l'ARS, moi le directeur de l'ARS nous l'a dit clairement, le pire est devant nous. Ça va s'aggraver encore dans les 4, 5, 6 ans à venir, ça va s'améliorer dans 10 ans environ.
Mais quand tout le monde sera mort parce qu'il ne sera pas soigné, donc ça va aller mieux.
Mais ceci étant, les nouvelles technologies, ce n'est pas une solution à tous nos problèmes.
Non, mais pas à tout.
Ça peut améliorer.
Mais quand tu as un rhume et que tu prends à ton médecin 20 minutes de son temps, et que tu es par rapport à quelqu'un qui aurait besoin de 20 minutes aussi pour une maladie beaucoup plus grave.
Déjà, tu vas pas avoir ton médecin pour un rhume.
Ah, toi, tu crois ça, toi ?
Bah, évidemment.
Ah, bon, d'accord.
Mais
ça se voit que tu diriges pas une entreprise. Pourquoi tu dis ça ? Bien sûr.
Ils vont aux urgences pour n'importe quoi.
Mais oui.
Bah, après, un rhume, ça peut devenir une sinusite.
Je suis content de cette émission qui s'est bien passée parce que, j'avais vraiment une grosse angoisse quand Jean-Claude Hérault est arrivé en chantant La liberté nous appelle, sachons vaincre et sachons périr. Un Français doit vivre pour elle, un Français doit mourir. Un Français doit vivre pour elle, un Français doit mourir.
Super, bravo. Faut applaudir.
Ça, c'est ce qu'on a. Bravo. On apprenait ça à l'école primaire. L'instruction civique.
En tout cas, c'était pour déconner, évidemment, que je disais ça. Mais c'est vrai qu'on en parlait avec Jean-Claude quand il est arrivé. Il m'a dit, ce soir, ça va être ma fête.
Non, ça va pas être ta fête.
T'as vu, ça s'est très bien passé.
Super.
C'est pas une histoire de droite, de gauche, mais la société évolue mal parce qu'elle se déshumanise.
Et voilà. Mais nous, au Coq-à-l'âne, nous sommes très humains. Voilà. Vous aurez noté qu'on aime.
Il y a des gens bien partout.
Qu'on aime l'humanité. Une dernière question, parce que là, il nous reste une minute. Tu te présentes prochainement?
Moi je suis l'éternel candidat. Ouais, j'en profite, mais le micro est fermé.
Bah, non, vas-y.
Ah oui, je suis candidat cette année aux élections municipales, bien sûr.
Mais où?
Ah, je le dirai plus tard.
Et sous quelle étiquette?
Je verrai plus tard.
Et sous quelle étiquette?
Je ne renonce à rien.
Je ne m'interdis rien. C'est ça qu'il veut dire.
Je ne m'interdis rien.
Louis Albrand, merci. C'est toujours sympa de t'avoir avec nous.
À très bientôt.
Merci Jean-Claude. Merci Jeannot. Merci Pierre-Louis.
Il m'a confié d'ailleurs que ce soir il avait fait le coq avec des ânes.
Il n'y a pas faux. Hein. Allez, passez une très bonne soirée. La semaine prochaine, on sera à Briançon. Et puis la dernière, ce sera dans 15 jours. Et ce sera avec Marie-Jo Allemand. Rendez-vous dans 15 jours. Oui, super. Je sais que tu seras là, Jean-Claude.